Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h19 ce matin, nous sommes avec Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo, essayiste pour son premier roman, Allegro Barbaro, aux éditions de l'Observatoire.
Oui. Alors on va en parler en fait dans un instant sur cette virée assez rock'n'roll du côté de l'ex-Yougoslavie. Ça ressemble quand même à du vécu quoi, hein, non ?
C'est du vécu. Ouais.
Ah oui, c'est du vécu. J'étais sur place pendant la guerre, oui, donc je sais de quoi je parle. Ouais. Au niveau des personnages, enfin il y a des personnages qui sont... certains sont deux en un, enfin j'ai fait une personne avec deux... Mais tout existe, enfin.
Ouais, ouais. Le narrateur est le personnage principal, c'est un peu...
Le narrateur, il me ressemble un peu. Ouais. C'est pas vraiment moi, mais il me ressemble un petit peu.
Bah oui, quand même. On a vu quelques similitudes. Juste avant ça, parce qu'on est en plein procès Charlie, il y a eu évidemment aussi les unes de Charlie Hebdo, puisque je rappelle que vous êtes ancien directeur de Charlie Hebdo. Qu'est-ce que vous avez pensé là, de la une cette semaine plutôt Charlie ou Kouassi, et mettant en relief et soulignant l'ambiguïté de Mélenchon, Plenel, puis Tariq Ramadan également.
Oh, je trouve ça formidable. Moi, je trouve ça absolument formidable. Je suis à fond pour.
Ouais.
Parce qu'on se bat, depuis, depuis les attentats contre ces gens. Voilà.
Tout ça, vous ne votez pas contre Jean-Luc Mélenchon.
Je me suis fait sur France 2 gravement sur cette question-là, l'émission débat de l'émission politique de France 2.
C'est
la guerre. C'est la guerre.
Et
ça sera la guerre jusqu'au bout. Hein.
Oui.
Depuis le début, et ça, je trouve ça plutôt bien. C'est vrai que effectivement, les responsabilités politiques, c'est-à-dire ceux qui ont laissé monter cet islamisme, cette fois sont clairement désignés, y compris par les gens de Charlie, ce qui est depuis un certain temps, et que c'est à gauche que ça se passe finalement. C'est un débat, enfin c'est une question aujourd'hui, une plaie béante, je pense, dans l'histoire de la gauche en fait.
Absolument, et puis elle ne se refermera plus jamais.
Donc vous êtes Philippe Val.
Oui, bien sûr, je viens de là.
D'où vous venez.
Si les gens qui disent que je ne suis plus de gauche, c'est que la gauche m'a abandonné. C'est pas moi qui ai abandonné la gauche.
En
abandonnant l'universalisme, en abandonnant... Enfin, il y en a deux, quoi. Il y en a une qui n'existe plus, pratiquement. C'est-à-dire...
La gauche badinter.
Tolérant, la gauche badinter, c'est ça, on peut dire ça.
Oui, la gauche, cette gauche qui était plus tolérante.
Humaniste, universaliste, laïque, profondément laïque et républicaine.
Est-ce qu'elle a disparu aussi avec Manuel Valls avant la présidentielle
Bien sûr, Manuel Valls incarnait ça, Cazeneuve aussi d'ailleurs d'une certaine façon.
Oui, il pourrait revenir d'ailleurs Manuel Valls selon
vous. Et pourquoi pas moi je trouve que c'est une personnalité politique de qualité.
Oui, et de l'autre côté, il y a cette gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, beaucoup plus radicale sur les questions.
On est revenu à 1917, là. On est revenu aux minorités qui veulent prendre le pouvoir par la terreur. C'est quelque chose d'inacceptable dans une démocratie moderne. Voilà, là on vient... Vous voyez, par exemple, j'entendais ce matin, enfin je lisais les journaux ce matin, ce qui se passe au Venezuela, Maduro qui est convaincu de crimes contre l'humanité, qui est quand même le grand copain de la France insoumise. Donc on sait bien où ça conduit tout ça. Et là on voit... C'est pour ça que la une de Charlie est importante. Il faut quand même dévoiler quelque chose sur cette gauche prétendument alliée, soutenant les plus faibles, les plus humiliés, etc. En réalité...
Mais ils ne soutiennent pas ouvertement non plus les musulmans fondamentalistes, parce que c'est ce qui est visé en fait derrière, quoi.
Localement, les maires et tout ça, ils ont des accords avec des mosquées qui sont insupportables. Ça fait partie de ce dont on peut parler à l'occasion de ce procès, quand même.
Rappelez-vous tout de même la question de l'islamophobie, puisque en fait c'était ça dont on a accusé Charlie Hebdo. Et moi, j'ai envie de vous poser une question aussi là-dessus. Enfin, plus exactement sur la liberté d'expression et de caricaturer. J'ai lu que le Dylan Poston avait soutenait Charlie. C'est le journal danois qui avait initialement publié les caricatures que vous avez republiées par solidarité qu'ils ont subi des violences. Et ce journal, aujourd'hui, dit « Nous soutenons Charlie, mais nous n'exposerons plus notre rédaction à des violences. » Alors moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que nous ne devrions pas tous, le même jour, tous les médias de ce pays, indépendamment de nos opinions, republier ces caricatures.
Ah, mais je pense que ça, c'est la solution. Mais dès le début, vous savez, Elisabeth, quand j'étais directeur de Charlie et qu'on a publié les caricatures, il était convenu d'abord que nous les publions à plusieurs journaux. Et plusieurs journaux avec lesquels j'avais pris contact.
En France,
oui. Mais, dont je ne citerai pas les noms pour pas faire de peine à leur maman.
Ce serait pas
et ils ont plié dans les deux jours qu'on suivit, soit devant leur rédaction qui s'y opposait, soit devant leur actionnaire qui s'y opposait. Mais ils ont plié. Mais au début, on devait être très nombreux à les publier.
Oui, oui. Et il y avait peut-être aussi de la peur, parce que
il y a
la peur.
Vous savez, aujourd'hui, il n'y a que de la peur, y compris chez ces gens dont parle Charlie, qui habillent leur peur dans une espèce de radicalisme de gauche, en disant oui, mais c'est les plus faibles, les plus humiliés, c'est sur ce terreau-là que pousse le terrorisme. Au fond, le vrai coupable, c'est la démocratie libérale. Ouais, c'est horrible, c'est comme raisonnement. En réalité, c'est de la peur.
Je crois qu'ils y croient, moi. Mais la peur est légitime.
Mais en réalité, la peur est légitime. Mais qu'elle prenne la forme d'un mensonge politique, parce que c'est un mensonge politique, c'est scandaleux, parce qu'en démocratie, on doit quand même profiter des libertés qu'on a avec un peu de courage pour les défendre. C'est la moindre des choses.
En tout cas, vos appels au 0826 300 300. Barbara qui nous appelle de Carcassonne. Bonjour Barbara.
Bonjour à tous. Merci infiniment, entre parenthèses.
Oui.
Alors, je vous écoute depuis tout à l'heure avec une infinie attention, parce que Charlie, 5 ans après, c'est quelque chose qui me touche toujours autant. Et je me demande à quoi sert le procès aujourd'hui, si ce n'est peut-être juste à donner la parole aux familles, ce que je respecte profondément, mais peut-être surtout dans la catharsis collective. Mais tant qu'on ne va pas faire le procès de ce qui a permis Charlie, et le Bataclan, et Nice, et tous les meurtres individuels, ça va rester une catharsis pour les familles. Et ce que vous disiez est tout à fait juste, parce que ce qui est terrible, c'est que les Kawashi, Koulibaly, etc., ils sont en train de gagner. 5 ans après, ils ont été tués, mais ils sont en train de gagner. Parce que si vous regardez la France d'aujourd'hui, 5 ans après Charlie, mais on a régressé d'une manière effroyable. Bientôt, une femme ne peut plus rentrer avec un décolleté. Dans les écoles, on ne serre plus la main des enseignantes femmes. On ne veut plus entendre parler. Dès qu'on ouvre le bec, on est islamophobe. Mais non, on n'est pas islamophobe. On est dans le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression. S'il y a une chose aujourd'hui qu'on doit défendre, d'ailleurs dans l'intérêt de tous les musulmans modérés, c'est la liberté d'expression. Et Charlie, je n'étais pas toujours d'accord avec ce qu'il décidait. Mais pour rien au monde, j'aurais voulu que Charlie s'arrête, parce que Charlie, c'était le cœur, le ferment brûlant de cette liberté d'expression dont on a tous besoin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on arrive ? On arrive à voir que tout le monde, comme vous le disiez si justement, est bloqué, serre les fesses, dans l'autocensure, dans la peur. Mais on va tuer la démocratie, là. On est mal parti. Et j'espère qu'on aura le courage, au moins une fois dans ce procès de Charlie, de dire qui est coupable à la base. Parce que je suis désolée, mais si on prend l'affaire de Christchurch avec Brenton Tarrant, qui a fait un carnage, on l'a condamné illico presto à la perpétuité sans aucune possibilité de compression de peine. Et on a bien dit ce qu'était cet infâme individu, c'était un néo-nazi, un ce que vous voudrez.
Barbara. Alors, Philippe Val va répondre juste après une pause à votre question. Est-ce que ce procès, évidemment, va servir à quelque chose ? C'est ce que vous dites aussi. Et puis, c'est vrai, il se passe dans une relative, quand même, indifférence, en fait, ce procès aussi. Quand vous regardez Messi dans la plupart des médias, parce
pourquoi
que, il y a
pourquoi,
bah, oui,
pourquoi, pourquoi
parce bah, on va voir ça dans un instant, Philippe Val. Restez avec nous.
Restez là, il est 9h28.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et c'est la suite du petit déjeuner de l'actu. L'ambiance est plutôt bonne à l'intérieur avec Philippe Val. Allegro Barbaro, un roman aux éditions de l'Observatoire ce matin avec nous.
Oui, alors Barbara a posé en fait un autre sujet, c'est en plein procès, non, Charlie. Voilà. Est-ce qu'il sert à quelque chose ?
Oui, il va servir à quelque chose. De toute façon, les témoignages ont été incroyable, très important. C'est un procès technique. Alors, il est normal que l'intérêt international plonge un peu au milieu. Il va se retrouver un peu à la fin, je crois. Mais l'essentiel, à savoir le procès de ce dont parlait Elisabeth, c'est-à-dire le terreau sur lequel, la complaisance politique et intellectuelle sur lequel a pu pousser chez nous le djihadisme et la radicalisation, ça, ce procès-là, il n'aura pas lieu dans l'enceinte du tribunal. Et le recul de la liberté d'expression suite aux différents attentats terroristes qui produit de la peur et qui habitue une société médiatique à avoir peur et cette peur se ressemble sur plein de sujets, le néo-féminisme, le néo-antiracisme, etc. C'est la cancel culture qui est en train de s'installer, c'est lié au terrorisme. Et ça, ce procès-là...
Pourquoi c'est lié? Expliquez bien, en fait, aux auditeurs.
C'est la peur qui vient d'en bas, et non pas l'État, il interdit rien, au contraire, l'État, il nous protège. Mais c'est...
Vas-y.
C'est la peur qui vient d'en bas, qui fait que les gens s'auto-censurent. C'est une peur terrorisante qui vient tous du même concept politique qu'est... un gouvernement par la terreur. Par une minorité et par la terreur. C'est complètement lié au terrorisme. C'est intimement lié au terrorisme. Je pense que le procès de ça n'aura pas lieu, évidemment, dans l'enceinte du tribunal, quand Richard Malkage prendra la parole, parce qu'il ne pourra pas ne pas parler de ça.
L'avocat, bien sûr.
Mais c'est à nous de faire vivre, à l'occasion de ce procès-là dans la société civile. Oui. Alors comment ? Il va falloir trouver des choses, des solutions. Par exemple...
Des prises de parole, comme
Elisabeth Lévy, que tout le monde publie les caricatures, ce qui est notre rêve depuis longtemps. Depuis des années, on rêve que tout le monde publie les caricatures.
Je voudrais quand même rappeler aux auditeurs, moi ça me met dans une colère folle, qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a effectivement des islamistes qui se baladent tout à fait en liberté, font tout à fait leurs agissements. Ce sont les journalistes de Charlie Hebdo, c'est Philippe Ball, qui, des années qui, 6 ans après l'attentat, vit encore sous protection policière. Et ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème avec la liberté dans notre pays.
Et autre chose qu'il faut relever quand même, parce qu'il y a des lots de consolations qui ne sont pas moindres, on est moins seul qu'à l'époque. On est moins seul qu'en 2006, quand on a publié les caricatures. Il y a plus d'intellectuels, il y a plus de personnes dans la société civile. On a, je pense, l'opinion avec nous. Alors, on n'a pas encore le Vatican de l'information, ça non, mais...
C'est intéressant, c'est quoi le Vatican de l'information?
Non, je veux dire, l'autorité morale que le monde a sur le reste de la presse, si vous voulez. C'est pas gagné, bref. Mais,
Parce qu'on se fait tout de suite traiter d'islamophobe.
Ce qui est une connerie. On peut détester une religion, enfin. Sinon, on serait encore au fond du Moyen-Âge, si on n'avait pas le droit de le faire. Ça n'est pas insulter les croyants que de détester une religion. Les personnes humaines ne sont pas concernées. C'est pas un racisme de détester une idéologie. On peut détester le trotskisme, l'islamisme, le nazisme, en respectant les gens. Les nazis non, les islamistes non, parce que ce sont des radicaux qui mettent en danger les gens. Mais enfin, critiquer une idéologie, c'est la base de la démocratie.
On va revenir justement sur cette fameuse parole.
Je voulais juste vous dire que à l'époque du procès, Boubacar, qui était le recteur de la mosquée de Paris, avait porté plainte contre nous. Aujourd'hui, le recteur de la mosquée de Paris soutient Charlie Hebdo sans condition.
Oui. C'est vrai que ça, c'est un grand revirement.
Mais condition. Qu'est-ce qui a changé, finalement?
Parce qu'on ne va pas toujours dans le sens du pire et qu'il y a des progrès qui se font par le dialogue. C'est vrai qu'on s'est parlé parfois avec certains responsables musulmans. Et puis ce type, je ne le connais pas du tout, mais il est intelligent. Il a fait une tribune de toute beauté. Mais vraiment, le recteur de la mosquée de Paris a fait une tribune formidable.
Qui est sur
Figaro Vox.
Il faut que Barbara et toutes les personnes inquiètes à travers elle aient conscience quand même que ce n'est pas inactif, ce n'est pas immobile.
Il y a justement des auditeurs
qui veulent en parler,
qui veulent encore en parler, et qui sont avec nous.
Et Daniel est avec nous du Cantal. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour, bonjour. Oui.
Bonjour,
bonjour à tous. Je vous écoutais avec un silence pratiquement religieux, tellement...
Ne dites pas des mots qui fâchent.
Ah, bon, voilà, on allait en parler. C'est-à-dire que vous parlez de cette peur qui vient d'en bas, et quand on se rapproche à, vous savez, la fameuse citation de Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais...
on a peur.
Elle est apocryphe. Moi, il ne l'a jamais dit, enfin passons.
Il l'a jamais
c'est
dit,
apocryphe.
C'est pas grave, elle est tellement belle.
Oui.
Mais quand j'ai dit, tiens, hier, je vais aller faire un tour sur Sud Radio,
oui.
On m'a dit, oh, mais vous, surtout, donne pas ton nom. Hein. Vous voyez, donc il y a cette peur.
Ah oui.
Il y a cette peur qui, voilà, qui existe, qui est réelle, qui est palpable. Moi, je sais que tous les jours, bon, je travaille en contact sans arrêt avec l'islam, si vous voulez, parce que j'agis en tant que famille de vacances, je recueille des gamins, des
d'accord.
mineurs isolés, des choses comme ça.
Ouais.
La majorité sont islam pratiquement.
Ouais.
Donc ils en prennent un petit bout, pas tout. Mais on a cette peur de partout, on voit sur les réseaux sociaux, je vois ce gamin qui avait juste fait une plaisanterie, hein, et qui 3 jours après pleurait sur les réseaux en disant « ne me tuez pas ».
Ouais.
Hein, ça marque des choses comme
façon,
ça.
Ouais, ouais.
Bon, et cette peur, bon, c'est vrai que quand on entend parler de la gauche radicale, vous savez, les bouffeurs de curés et la gauche, c'était des gens qui, de toute façon, ont trouvé dans l'islam au démarrage un allié naturel contre le catholicisme.
Ouais.
Donc, ils n'ont pas forcément vu des choses venir. Pour eux, c'était, d'accord, on est laïque, mais enfin, on a quand même un allié qui, lui, vient prendre la place du catholicisme. Donc, ça s'est fait naturellement. Mmh. Ils n'avaient peut-être pas mesuré après. La portée de ce que ça allait pouvoir représenter dans notre société.
Ouais. Philippe Val, je vous vois hocher en fait.
Non,
de la
je
tête,
pense que
ou...
c'est pas la.
Non,
c'est pas pour emmerder le catholicisme régnant, parce que le catholicisme en France depuis un moment tout le monde s'en.
Déclinant.
Voyez,
ouais.
Oui. Voilà, je veux dire par là que c'est pas une passion française. Les gens se précipitent pas à la messe de 10h le dimanche. Mais je pense que c'est simplement que dans la tête de la gauche radicale qui cherche toujours une clientèle, parce que les plutôt groupusculaire, là ils ont trouvé la religion des humiliés, des offensés, enfin ça date,
ouais, ouais.
Ça date des années 60 avec
quoi.
Sartre et la décolonisation.
Ouais.
Bon, il n'y a plus de colonies, mais ouais. Ils les considèrent toujours comme décolonisés, mais surtout, ils considèrent les musulmans qu'ils défendent parce que humiliés, offensés, etc. Ouais. Quand, par exemple, si vous voulez, on publiait à Charlie beaucoup de couvertures très très violentes et de dessins contre les cathos intégristes, anti-avortement, etc. On avait les applaudissements de tout le monde. Hein. J'ai eu 20 procès devant la 17e pour ça, 20 à peu près. Et quand on fait un truc sur l'islam, sur des thèmes beaucoup pas plus graves, et aussi ni plus ni moins, là, tout d'un coup, on est devenu raciste. Pourquoi ? Il y avait aucun racisme dans Charlie. Donc là, il y a eu vraiment une démission laïque, une démission universaliste de cette gauche, qui est l'autre partie de la gauche irréconciliable, donc. Et parce que ils ont jugé que les musulmans étaient incapables, soi-disant ils les défendent, hein, ils sont antiracistes, incapables de comprendre l'humour. Alors que les cathos, eux, ils sont capables de comprendre l'humour.
Oui, c'est ça.
Les musulmans sont pas capables de comprendre l'humour. Je voudrais bien qu'on m'explique biologiquement, physiologiquement, génétiquement, la différence entre un chrétien et un musulman. Si vraiment ils pensent qu'il y a une différence, c'est eux les racistes.
Il y a une différence entre les religions qui est la difficulté à séparer le religieux et le politique.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est autre chose. C'est le problème d'idéologie.
Daniel qui nous appelait du Cantal. Cécile, hein,
il y a Paul en ligne avec nous au 0826-300-300.
Du Lot-et-Garonne. Bonjour, Paul. Bonjour, Paul.
Oui, bonjour.
Oui.
Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui.
On vous entend très bien.
Voilà. Ouais. Moi, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est la lâcheté. On est revenu au temps de la collaboration de 39-45. Et c'est vraiment le mot. On a des politiques qui sont lâches, qui aujourd'hui s'échappent face à leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, le monde qu'on va laisser pour nos jeunes, ça va être quand même proche de la guerre civile ou de la soumission. Et c'est grave de voir des menaces de mort sur Zineb El-Razoui, sur Judith Weintraub, parce qu'elles ont osé des femmes, qui ont osé critiquer l'islam. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Soit l'islam, c'est une religion de tolérance et ça peut rester en République, soit c'est pas une religion de tolérance, c'est du repli communautaire et religieux, et à ce compte-là, il faut la combattre. Et les lois républicaines sont prévues pour ça. La lâcheté des politiques qui courent après des électeurs conduisent à des attentats comme Charlie. Les gens sont morts pour des dessins. On est où, quoi ? On est où ?
Ouais.
Une fois de plus,
Le recteur oui. Philippe Val va vous répondre, vous pouvez rester en ligne.
Il y a deux
si
choses.
Voulez,
une oui. fois de plus, le recteur de la mosquée de Paris a prouvé le contraire de ce que vous dites, parce que il a une autorité morale, alors évidemment peut-être pas sur les banlieues les plus enclavées et les plus islamisées, ou, etc. C'est clair. Mais au moins, c'est une voix politique de l'islam. Enfin, une voix, c'est un... Il a dit quelque chose de politique à propos de l'islam. Ouais. Et qui va tout à fait dans le sens de la République et de la démocratie. Voilà. D'autre part, lorsque nous avions publié les caricatures, on a été désavoué officiellement par le président de la République de l'époque et d'autres personnalités politiques, Jacques Chirac et quelques autres. Et aujourd'hui, le président de la République soutient, ce qui n'est pas pareil. Le président de la République a dit que le blasphème est un droit inaliénable en démocratie. Donc les choses ont quand même changé. C'est la première fois qu'un président de la République énonce ça de façon aussi claire, contre certaines tendances de la Cour européenne de justice. Donc,
et de Mme Belloubet.
Et de Mme Belloubet, qui a dit une connerie, mais qui n'est plus ministre du coup. Donc, on ne peut pas mettre tous les politiques dans le même sac. Il y a quelque chose qui bouge aussi dans le monde politique.
Qui est en train de... Paul, vous n'avez pas l'impression... C'est Paul, hein, toujours. Oui,
c'est Paul.
Vous n'avez pas l'impression quand même que c'est en train de bouger, que, comme le disaient Philippe Val et Elisabeth Lévy tout à l'heure, qu'il y a une prise de conscience quand même, et qu'il y a des débats qui sont abordés aujourd'hui, alors qu'ils étaient tabous quand même, juste après Charlie et pendant cette période, non?
Non, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, aujourd'hui, je suis en zone rurale et j'ai des salariés qui sont tous musulmans. Donc, si vous voulez, c'est un sujet que je connais très bien.
Ouais.
Et
y en a vous en parlez avec eux, Paul, ou pas, alors, justement?
Oui. Mais
qu'est-ce qu'ils vous disent?
C'est tabou parce qu'on se heurte à l'inculture. C'est-à-dire que quelqu'un leur a dit que ce n'était pas bien, donc ce n'est pas bien. Mmh. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la capacité d'analyser par eux-mêmes. Et aujourd'hui, on en est là. Et aujourd'hui, si vous voulez, l'islamisme radical progresse plus grâce à l'inculture qu'à la culture. Et le problème, il est là. Je pense que ces gens-là manquent d'éducation.
Ce sont des certains, pas tous, bien sûr.
Ceux qui sont passés à l'acte,
bien sûr.
Qu'ils ont Bac plus 5,
oui.
À un moment donné, il faut regarder les choses en face. On a des gens qui sont faciles
enfin, à... Enfin, les terroristes du 11 septembre avaient Bac plus 5, hein, plus 8 même.
Oui, parce qu'il fallait conduire des avions. Mais enfin, le reste du temps, partout, les besoins...
C'est vrai qu'il y a une exploitation, quoi. Les fondamentalistes, bien sûr, c'est ce qu'ils ont fait déjà dans certains pays, et ce qu'ils essaient de faire, et de monter, du coup, les musulmans les uns contre les autres, quoi. Après, c'est de ça dont il s'agit, en fait, derrière, hein, Philippe Val. Une fracture.
Mon marchand de journaux et sa femme, qui sont tous les deux... qui viennent tous deux du Maghreb, ont vendu tous les Charlies et on en recommandé et disent à leurs clients, vous devez acheter ce numéro. Il y a quand même beaucoup de musulmans qui sont très mal à l'aise avec ça et qui en ont
marre.
Grosso
modo, c'est du 50-50, me dit-on, en fait, dans les familles,
chiffres,
en fait, hein, dans les familles musulmanes, quoi,
Oui.
Merci, Paul, Daniel, mais Barbara. Oui,
est-ce que justement l'émergence de nouveaux médias comme les réseaux sociaux, c'est vraiment un problème? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas arrêter cette radicalisation qui est silencieuse, qui se fait sous le manteau et qui avance à grands pas quand même.
En mettant sur le marché les réseaux sociaux il y a quelques années sans aucune réglementation, alors que déjà fiscalement c'était une hérésie puisque c'est transnational, en mettant ces conversations privées en public, en quelque sorte, avec des groupes, facilité de grouper, etc. On a, sans aucune régulation, on a fait une connerie démocratique, mais hallucinante. Il fallait, avant de mettre ça sur le marché, étudier la faisabilité.
Encadrer.
Comme tout sujet de société grave, demander au Parlement de travailler un peu sur ces questions-là, que l'exécutif... Enfin bref, on n'a rien fait. On a dit, c'est super, c'est pour les jeunes, ça, super, on y va, quoi. Enfin, si on fait pas ça, on aura l'air ringard. Et voilà, maintenant, on se trouve en face d'un monstre.
Ouais.
D'un monstre. Parce que c'est pour l'instant, c'est irrégulable. On met des amendes par-ci, par-là, on met des... vous voyez, il y a des gens, parfois, qui ont publié les caricatures sur leur truc, leur compte a été arrêté parce que c'est des algorithmes qui... Oui, enfin bon, bref, mais.
Et puis parce que quand même, quand on écrit ou quand on prend la parole, hein, bien sûr, dans un média plus classique, dans les anciens médias, il y avait un certain contrôle.
Ah non, mais c'est vrai nécessaire. Que quand,
là, on écrit comme on respire, quoi, en quelque sorte, sur l'ensemble voilà. des réseaux sociaux. C'est tout le danger.
Hein. Oui, ce qui s'est passé à tout point de vue, sur tous les sujets. Ça veut dire que des minorités foutent la trouille à des immenses majorités. Ouais. On l'a vu avec certains trucs chez les Gilets jaunes, on l'a vu. Ouais. Et dans l'affaire Mila, oui, précisément, dont Elisabeth me fait signer, l'affaire Mila, qu'est-ce qui s'est passé? Les réseaux sociaux ont été d'une violence incroyable. Les fautifs, ceux qui ont, d'un pur point de vue d'un proviseur de lycée, les fautifs n'ont pas été punis. Les fautifs sont restés dans le lycée. Il a fallu sortir Mila, c'est-à-dire la victime, pour la planquer ailleurs, pour qu'elle l'exfiltrer, sans pouvoir lui trouver un établissement public pour qu'elle puisse faire ses études. Non, mais c'est hallucinant. Ouais. C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, contrairement au siècle passé, où l'État et l'Église, enfin, l'autorité pouvait censurer des propos, et aujourd'hui, l'État protège ceux qui sont censurés par les réseaux sociaux, par les fous qui s'expriment là-dessus, parce que c'est quand même le paradis des paranoïaques, paradis des complotistes, le paradis des haineux, le paradis des ratés, des gens qui reprochent à la société d'avoir raté leur vie, d'être mal mariés, d'avoir des carrières de merde, et c'est quand même le paradis de tout ça, les réseaux sociaux.
Juste petit mot sur votre livre, justement, sur cette guerre de la Yougoslavie. Est-ce que, justement, ça montre pas le problème de mettre en place une politique de sécurité dans l'Union européenne?
Mais je pense qu'on ne pourra pas mettre en place, comme vous dites, une politique ou un régulatrice afin que la liberté puisse continuer à s'exercer sans que ça soit la guerre de tous contre tous. Il n'y a qu'à l'échelon européen que ça peut se faire, bien sûr, évidemment.
Oui, un mot, parce que vous y êtes allé, puis on vous retrouve à travers les deux héroïnes qui sont dans ce livre, Philippe Val. Qu'est-ce que vous avez perçu, vous, dans cette guerre de Yougoslavie? C'était un petit peu déjà ce que l'on vit aujourd'hui un peu en Europe, c'est-à-dire cette guerre entre communautés, de gens qui n'ont pas réussi à vivre ensemble. Quoi.
Oui, j'ai écrit ce roman, ça faisait longtemps que je voulais l'écrire, ça faisait 20 ans que je voulais l'écrire.
C'est votre premier roman, d'ailleurs.
Mais c'est mon premier roman, je l'ai prémédité longtemps. Ouais. Et donc, j'ai écrit plein d'autres choses avant. Mais là, j'ai dit, il faut que j'y aille. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Parce que là, se sont cristallisées des haines. Si vous voulez, il y avait... au sein de la gauche, malgré des désaccords profonds, il y avait des sujets communs avec lesquels sur lesquels on pouvait travailler ensemble. Bon. Et à partir de la guerre en Yougoslavie, ça a été fini. C'était le début de la fin. Les positions se sont radicalisées entre une gauche plus centriste et une gauche plus radicale, pour faire plus vite, vous voyez. C'est devenu la guerre, la haine. C'est-à-dire que, tout d'un coup, votre carnet d'adresse... diminue de moitié ou des trois quarts maintenant et c'est vraiment sur des sujets tabous et ça commençait là avec une gauche souverainiste, profondément souverainiste, et une gauche qui est restée fidèle à l'universalisme, comme Blum a voulu rester fidèle aux libertés en 1920 au congrès de Tours, et que le Parti communiste s'est créé contre lui.
Voilà. Bon, c'est pas forcément ce qui est raconté quand même dans votre livre.
Non,
il y a autre chose. Il y a une histoire.
C'est un roman picaresque.
Ah oui, oui, oui. Non, mais absolument. On parle dans un bar, il y a la musique.
C'est tragique et léger en même temps.
C'est l'histoire d'un groupe de rock qui pense que sa musique va réconcilier les gens et qui part faire une tournée là-bas. Ils n'y arrivent pas parce que c'est un pays en guerre. Donc c'est des pieds nickelés, c'est vrai, qui s'enfoncent au cœur des ténèbres.
Beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de.
Mais avec votre véritable expérience et des vrais personnages.
Et des vrais personnages.
Qui ont existé. Voilà. En tout cas, il faut à lire. Puis il est très sévère sur l'écologie, on aurait le temps d'en parler aussi pendant très longtemps.
C'est vrai, allez gros.
Sur l'écologisme.
L'écologisme, qui
est plus proche de l'islamisme que de l'écologie.
Absolument.
Alors, on va pas refaire le débat parce qu'on l'a déjà eu ce matin, mais vous reviendrez pour
ça.
Vous reviendrez dans une autre émission chez André Bercoff ou avec Jacques Pessis dans toutes les émissions de Sud Radio. Et il y a de la place pour s'exprimer.
Ça s'appelle Allegro Barbaro, c'est à lire absolument. C'est un roman aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Philippe Val d'avoir été avec nous.
Et dans merci un instant, aux auditeurs d'avoir appelé, il y a beaucoup de monde.
Absolument, et dans un instant on va parler du patrimoine de l'automobile. C'est la journée européenne du patrimoine qui a lieu ce week-end en France, 9h50.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h53 et ce matin, les journées européennes du patrimoine ont lieu ce week-end et dans toute la France. On en parle ce matin avec Jean-Louis Blanc, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes président de la Fédération française de véhicules d'époque.
Tout à fait.
Voilà. Ah bah
voilà. Donc il va y avoir des véhicules, beaucoup d'événements un peu partout ce week-end. Hein.
Mais oui, il devait y en avoir partout. Et puis les conditions sanitaires font qu'il y en a, moins qu'on l'aurait souhaité. En fait, c'est la première année que nous associons aux Journées européennes du patrimoine. Nous sommes très très heureux de le faire parce que nous avons le sentiment de représenter une partie importante du patrimoine français, qui est le patrimoine industriel, qui est reconnu par le ministère de la Culture. Et donc, c'est la première fois que nous nous associons au patrimoine un peu plus traditionnel, que sont les monuments qui sont ouverts à la visite.
Alors, il va se passer quoi pendant cette journée, en tout cas ?
Il devait se passer beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y avait une cinquantaine de sites qui avaient été choisis d'un commun accord avec le ministère de la Culture pour nous présenter également notre patrimoine automobile, qui est un patrimoine industriel remarquable, dont je vais vous parler un peu plus. Et puis, en fait, il n'y a qu'une quinzaine de sites, mais quand même quelques très très beaux endroits dans lesquels nous avons organisé des expositions à thème un peu dans chacun de ces endroits. Et en particulier, à Paris même, au Palais Royal, à côté des colonnes de Buren, tout près au pied du ministère de la Culture.
Et quelle est votre mission, vous, en tant que président de la Fédération française de véhicules d'époque ?
Alors, la Fédération regroupe tous les collectionneurs de véhicules anciens. En fait, elle rassemble 1600 clubs. Également toute l'activité économique autour de ces véhicules anciens, en particulier les entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent sur les véhicules anciens. Nous avons 500 adhérents dans la Fédération et tous les jours, des nouveaux adhérents de nouvelles entreprises soit se spécialisent là-dedans, soit ouvrent des départements pour traiter les véhicules anciens. Car c'est un patrimoine un peu particulier. Vous savez, c'est un patrimoine qui doit rouler.
Oui, bien sûr.
Il doit rouler. Un patrimoine qui ne roule pas, pour nous, il faut rouler. C'est comme si un violon ne jouait pas, c'est comme si un tableau était entreposé dans des réserves. Il faut que ce patrimoine vive la vie qu'il doit vivre. Et pour ça, il faut l'entretenir bien, beaucoup, souvent, tout le temps. Et donc, il faut des professionnels très, très, très spécialisés. Puisque aujourd'hui, avec les normes très, très considérables technologiques du secteur de l'automobile, on ne formait plus, jusqu'à il y a peu de temps, des artisans, des ouvriers, des techniciens spécialisés.
Donc ça veut dire que c'est des métiers qui reviennent ?
Ah, tout à fait. Et nous avons relancé cette année avec le Centre national des professions d'automobile une formation spécialisée sur la carrosserie de véhicules anciens, sur la mécanique de véhicules anciens, on démarre petitement à cause évidemment du Covid, mais que dès l'année prochaine, on aura au moins une cinquantaine de certificats de qualification professionnelle par an dans ces métiers qui permettront de répondre à la demande, parce que tout le monde cherche des
oui, il y a une demande, en tout cas pour les collectionneurs, il y a une demande énorme.
Oui, mais Jean-Louis Blanc, à partir de quand une voiture devient un véhicule d'époque ? Parce que comme dans le temps, maintenant je me pose la question, parce que
il a une vieille Renault 5, Patrick Roger,
mais c'est en train de bouger, quoi.
Je vais vous dire, c'est 30 ans. Il y a une règle qui est
30 ans.
Des années, c'est 30 ans. Ouais. Donc tous les ans, ça rapproche, évidemment. Qui vous aurait dit il y a 20 ans qu'une 205 GTI deviendrait une voiture de collection ?
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, une très belle voiture de collection. Donc tout ça avance avec le temps. Alors il y a des jeunes voitures de collection, ça s'appelle des Young Timers. Et puis il y a des voitures qui prennent de l'âge comme nous.
Pas que la 4 chevaux, quoi.
Non, il y a pas. Alors c'est également une. C'est un patrimoine, mais c'est aussi une passion. Ouais. Et c'est une passion qui est extrêmement partagée. Ça va de celui qui, comme vous dites, répare sa 4L, à celui qui a déjà une collection très importante de voitures de luxe. Ça va de collectionneurs très modestes, des collectionneurs des collections de voitures très, très chères. Donc c'est très partagé, et ces gens-là se parlent. Donc c'est une passion qui rassemble. C'est une passion qui rassemble beaucoup.
En tout cas, voilà, ce sont les journées européennes du patrimoine qui ont lieu ce week-end un peu partout en France. Merci beaucoup, Jean-Louis Blanc, d'avoir été avec nous.
Et dans le sud-ouest, à Auch, notamment.
Oui, c'est ça, à Auch aussi.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Ouais. Merci.
À Tulle, un peu partout dans le sud-ouest.
Oui.
Et bien voilà, on y sera et on vous suivra. Merci d'avoir été avec nous ce matin et merci à vous de nous avoir appelés. Hein. Vous aurez 826-300-300. On vous retrouve demain matin dans un instant. Valérie Expert reçoit Antoine de Maximi. Vous savez le monsieur qui vient dormir chez vous ?
Absolument. Bah, il vient faire la radio chez nous.
Il peut sonner à la porte. Restez là.
Allez, ciao, on vous embrasse.
À demain, salut.